maintenant un bon boîte casse.
Maintenant un bon boîte casse. Maintenant un bon boîte casse.
Et bonjour à toutes et tous. Une étape absolument incontournable du salon de Nuremberg, dirais-je même le Nuremberg Toy Fair. C'est une rencontre avec mademoiselle Mathilde Sprier de la société Gigamic. Bonjour Mathilde. C'est une surprise, tu ne t'appelles pas Mathilde.
C'est ça, non mais bonjour.
Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, actualité incroyable. Hein, chaque fois qu'on se rencontre au salon de Nuremberg, il y a des nouveautés, c'est évident, mais cette fois-ci, c'est un peu l'explosion. C'est même plus que l'année passée, il me semble. L'année passée, on avait fait 4 jeux édités chez Gigamic. Il y avait Papayou, il y avait ce genre de... Non, c'était encore un an avant, ça ?
Cubulus, Cabaléo.
Ouais, non, c'était déjà Nuremberg.
Oui, non, Papayou et Yami, c'était avant.
Ouh là là. Et donc, nous sommes ici pour 6 jeux différents. Et en plus, des chouettes découvertes, puisqu'il y a, une créatrice de jeux qui commence à bien monter et qui a 2 jeux chez vous. En plus, c'est Annie Clobet, donc on va en entendre parler. On va commencer par prendre le thé, j'imagine.
Oui. Hein ?
Et donc, c'est un jeu qui s'appelle Tea Time, donc je t'écoute.
Alors, Tea Time, c'est donc un jeu créé par Emanuele Ornella, qu'on connaît déjà pour des jeux bien connus tels que Assyria chez Istari.
Absolument. Et effectivement, Assyria, c'était vraiment du petit cube en bois. Et donc... Une fois de plus, les auteurs démontrent qu'ils sont capables d'aller dans les deux extrêmes. Je n'ai pas dit que c'était... C'est pas un jeu nunuche, mais c'est un jeu où il n'y a pas de cube en bois.
Alors non, il n'y a pas de cube en bois, il n'y a que des tuiles, et des tuiles avec 6 personnages différents du monde d'Alice au Pays des Merveilles, évidemment, qui sont soit sur leur face normale, soit basculent du côté du monde du miroir. Et donc tout le jeu, ça va être d'inviter... Donc Alice essaye d'inviter des invités pour le thé, mais il va falloir qu'elle fasse des choix, parce qu'un personnage... ne peut pas être d'un côté et de l'autre. Donc il va falloir faire un choix. Et donc c'est un jeu de prise de tuiles, hein, peut-on dire. Il faut gérer, parce que le gagnant, c'est pas celui qui aura le plus d'invités à la fin, c'est celui qui aura le mieux géré ses invités. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est que ça devient rentable d'avoir des personnages à partir du moment où on en a 3 ou plus. Avant, vaut mieux n'en avoir aucun, ce qui rapporte plus de points que d'en avoir 1 ou 2.
D'accord. Et donc, l'histoire, c'est que ce sont toutes des petites tuiles carrées. Donc ça, c'est encore un prototype ou c'est le jeu fini, ça ? J'adore ce genre de questions. Ça, c'est un prototype, quand même. C'est pas possible, ça. Mathilde, reviens ! Donc l'histoire, effectivement, c'est qu'il y a des tuiles carrées qu'on va disposer sur la table. Et donc, on va avoir un quadrillage plus ou moins grand en fonction du nombre de joueurs. Et on va retrouver aléatoirement des personnages, peut-être les mêmes, mais à chaque fois d'un côté réel, d'un côté de l'autre côté du miroir. Donc ça, c'est le point de départ. Il y a une carte Alice, et puis le jeu démarre comment ?
Alors le joueur qui a la carte Alice est toujours le premier joueur. Il va commencer simplement par poser la carte Alice où il veut sur la grille, à prendre la carte qui est à la place et à la garder devant lui. C'est le début de sa collection. Le deuxième joueur, lui, pourra prendre 1 ou 2 cartes. Alors les 2 cartes, elles doivent être adjacentes. Ça peut être en diagonale, mais elles doivent être l'une à côté de l'autre. Et puis à partir du 3e tour, on va pouvoir prendre 1, 2 ou 3 cartes. Et donc le tout, c'est de gérer ce qu'on va récupérer. Parce que de toute façon, on va devoir vider la grille et la vider plusieurs fois.
Ce sera face visible en plus, donc on pourra vraiment voir ce qui pourrait ennuyer les autres.
Alors c'est exactement ça. C'est aussi essayer de contraindre quelqu'un qui s'est bien débrouillé, qui a une collection par exemple de 4 ou 5 personnages, l'obliger à prendre le personnage dans la face opposée pour qu'il soit obligé de les supprimer.
Parce qu'on ne l'a pas dit, quand on prend un personnage réel et un personnage de l'autre côté du miroir, il s'annule, il retourne dans la boîte.
Exactement.
Ça, c'est mal.
C'est mal.
Et donc le jeu se joue en plusieurs manches, et puis il y a un certain moment où on fait le décompte des personnages qu'on a réussi à inviter, et ça s'arrête là.
Exactement.
Donc le jeu a été présenté à Gigamic par Emanuele Ornella il y a combien de temps ?
Ça s'est passé, alors c'est une bonne question, j'ai rencontré, parce que je le rencontre régulièrement sur les salons, me semble que ça date de Essen de l'an passé.
Voilà. Et c'était, le jeu était tip-top comme ça ? Il y a eu de la modification, il y a eu du travail d'édition de votre côté ?
Non, là pratiquement pas, le jeu il était déjà fini, Emanuele Ornella il a l'habitude, il fait des jeux beaucoup plus compliqués que ça, donc un jeu comme ça il savait le gérer du début à la fin. Nous on s'est surtout occupé de la partie graphisme.
Et donc on le retrouve en plus dans cette gamme métal qui est fort sympathique.
Oui, et puis superbement illustré par Chiara Vercesi, et donc c'est un jeu presque 100% italien quoi.
Oui, effectivement, et Valentina Pastorino.
Voilà.
Bien, donc ça c'est Tea Time d'Emanuele Ornella. Typiquement, les jeux dont on va parler dans ce podcast sont sur le marché dans combien de temps ?
Alors, ils seront disponibles ici en avril avril ou mai. Sachant qu'ici, donc, on parle que, parce qu'on est à Nuremberg, donc on expose que ce qu'on exporte à l'étranger. Donc, notre travail d'éditeur pur, il n'y a pas ce qu'on distribue. Donc, tout ce qui est édition Gigamics sera disponible en avril.
Ok. Alors, start, c'était Tea Time. On passe 20 cm sur la gauche, sur la droite pour toi, ou l'inverse. Et on passe à un jeu justement de Annie Clobé, qui s'appelle Home Sweet Home. Alors Annie Clobé, on la rencontre au Corsair Ludique par exemple, qui, avec ses grandes malles de prototypes. Et c'est un peu l'année de la consécration, on va dire, puisqu'on a vu au Scorpion Masqué, on a vu le jeu Trafic. Et maintenant, il y a deux jeux chez Gigamic, donc exposition maximale, dirais-je.
Maximale. Puis alors, Annick, elle est capable de passer d'un jeu, alors comme Home Sweet Home, qui est un jeu hyper familial de cartes rigolo, à Stratopolis, qu'on verra après, qui est un jeu abstrait, pur et dur. Donc, elle est juste incroyable. Et puis, ça fait plaisir de voir une femme auteur de jeu qui fait autre chose que du jeu pour tout petit piou-piou. Voilà, moi, ça me fait bien plaisir.
Ah oui, tout à fait. Non, c'est très gai d'avoir cette couleur-là et cette philosophie-là qui rentre enfin dans le milieu du jeu au niveau des créateurs. Donc, Home Sweet Home, tu l'as dit, c'est un jeu de type familial. C'est quoi la mécanique ?
Alors, Home Sweet Home, on a tous une collection de 5 scaphandriers dans lesquels on va essayer de collecter le plus d'animaux possible, des jolis animaux de la mer que nous avons devant nous et qui sont des crabes et des octopus, des poulpes. Des crabes et des poulpes.
Des poulpes.
Donc nous essayons d'attirer des crabes et des poulpes dans nos jolis scaphandriers. Le problème, c'est que les crabes et les poulpes, ils peuvent pas se blairer. Et donc on peut pas les mettre dans un même scaphandrier, sinon ils se bastonnent entre eux et hop, il faut les relâcher à la mer.
D'accord.
On a 4 cartes en main chacun.
Donc juste le point de départ, on a ces fameuses scaphandres, ce sont 5 cartes avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5. C'est en fait la capacité de chaque scaphandre.
Exactement. Ah bah, la capacité, c'est les... On a, en fait, je reviens aux cartes, les cartes crabes et octopus, elles aussi sont numérotées de 1 à 5. C'est-à-dire que quand il y a 4 crabes sur la carte, il y a écrit 4 crabes.
Waouh. Ça, c'est un travail d'édition de la part de Gigamics ?
Oui, c'est ça, c'est un gros travail. Au départ, c'était des moutons. Alors, hein, t'as vu, on a bien travaillé.
Oui, pas mal.
Non, ce que je veux dire, c'est que quand on... À un moment donné, j'explique après comment, mais on va récupérer ces cartes avec des animaux dessus et on va les distribuer dans nos scaphandriers. Et ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, une carte où il y a 4 poulpes, je ne vais pouvoir la mettre que dans mon scaphandrier numéro 4.
Ok, donc c'est pas une question de capacité, c'est une question de classement. Voilà. Donc on démarre avec ces 5 scaphandres qui sont vides, et puis on va recevoir des cartes qu'on a
alors,
en main.
À son tour, on prend une carte de sa main, de son choix, on la pose au centre de la table et on annonce le nombre d'animaux total au centre de la table. Par exemple, là, le premier joueur a posé une carte de crabe. Le joueur suivant pose une carte 5 crabes et donc annonce 5 plus 2, ça fait 7 animaux. D'accord ? Enfin, le troisième joueur qui passe par là, lui, pose une carte 5 poulpes et ça nous fait donc 12 animaux.
Absolument !
Exactement. Et alors, arrivé à 12 ou plus, hop, celui qui pose la carte 12 ou plus doit ramasser, obligatoirement.
Celui qui a posé la carte qui a fait qu'on était à 12. Hein.
Voilà, c'est ça ?
Oui, tu sais très bien.
J'avais dit ça, finalement.
Oui, mais j'avais une question, je pense tout.
Et il va devoir ranger ses animaux dans les scaphandriers correspondants.
Devant lui.
Je mets ma carte de crabe dans mon scaphandre numéro 2. Je mets ma carte, hop, 5 poulpes dans mon scaphandrier numéro 5, sauf que j'ai récupéré aussi une carte 5 crabes.
Oh.
Et comme j'ai déjà 5 poulpes, et ben ils vont se battre, et on les relâche à la mer.
Tu fais bien la bagarre de poulpes avec. Et donc, oui, donc ces deux cartes-là, effectivement, disparaissent. Et c'est des points perdus, en fait, pour
voilà.
Le joueur.
Parce que le but du jeu, c'est qu'à la fin de la partie, on ait le plus d'animaux possible dans ces scaphandriers, et donc on compte tous les animaux. Et donc on va essayer évidemment de pourrir les adversaires qui ont des jolies cartes 5 crabes ou 5 poulpes en les obligeant à prendre les opposés.
Voilà. Tout à fait. Très bien tout ça. Donc c'est Home Sweet Home, un jeu d'Annie Clobé. On est sur 10 à 20 minutes, 8 ans et plus, 2 et 4 joueurs. Et la rencontre avec Annick s'est fait à un Corsair Ludique par exemple ou bien autrement?
En fait, je crois qu'elle a commencé par nous envoyer... en fait, c'est Roberto qui nous a mis en contact
Roberto
par email. Roberto Fraga, pardon. Qui nous a mis en contact par email.
C'est moi qui fais la voix off, tu vois. Roberto Fraga.
Roberto Fraga. Et derrière, en plus, on s'est rencontrés à Partenay comme j'étais jury cette année.
Voilà. Donc, ceci a entraîné en cela.
Exactement. Mais ça s'est décidé très vite parce que les deux jeux d'Annick, on les a eus en juillet et on les a signés pratiquement tout de suite.
Donc aussi, non seulement une créatrice... mais qui a le chic pour terminer ses prototypes à un niveau où c'est vraiment éditable.
Oui, c'est sûr. Et puis avec des bonnes idées coup de cœur. Parce que, qu'on n'a pas hésité 6 mois, voilà, super.
C'est du neuf.
Neuf.
Bien. Alors, nous passons chez Dominique Erhardt, si je ne me trompe. Avec Panic Lab, qui est un... Déjà, ces trois jeux, on l'a pas dit, mais sont en boîte métal. C'est boîte métal rectangulaire. Et là, on a une illustration avec des espèces de choses, avec un œil.
Alors, ce sont des amibes.
Ah bah oui.
Alors, les petits amibes, on y va, qu'est-ce qui se passe?
Oh, 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 oh.
Alors, quel est le principe du jeu? On a des tuiles qu'on va disposer en cercle autour de la table. Et sur ces tuiles, il y a des amibes, donc des sortes de petits monstres rigolos, qui sont de deux formes différentes. Donc, il y a une qui a des tentacules, il y en a une autre qui est rampante. Il y en a des rouges, il y en a des bleus, il y en a des à rayures et il y en a des à pois.
Voilà, jusque-là, rien de fort surprenant.
Il y a aussi des cartes avec des laboratoires. Il y a le laboratoire jaune, le laboratoire rouge et le laboratoire bleu. Alors, c'est un jeu d'observation. On va jouer tous ensemble en même temps. Il y a des dés. Il y a des dés. Alors, on lance les dés. Et tous ensemble, on va chercher l'amibe qui s'est échappée, la coquine. Il faut la rattraper. Vite, vite, vite. Alors, sur ces dés, on a quoi? On a un dé qui indique de quel laboratoire l'amibe s'est échappée et dans quel sens. Alors, c'est le sens, voilà, ici de la
flèche. Là, on est sur la face bleue, donc il va sur la tuile bleue. Et c'est la flèche noire, donc voilà. Donc, c'est le travail d'édition, hein, facile, ergonomique.
On cherche une amibe qui a des tentacules, pour cette fois. Donc, il y a un dé qui nous indique quelle forme d'amibe on cherche. On cherche une amibe rouge. Donc, il y a un dé qui nous indique si elle est rouge ou bleue. Et puis, il y a enfin un dé qui nous indique si elle est à pois ou à rayures. Donc, on suit tous en même temps dans sa tête le cheminement. Et hop, le premier qui la trouve tape dessus.
D'accord, ok.
D'accord. Et gagne un point de victoire. Il y a des petits chips de points de victoire.
Il y a des chips dans la boîte ?
Il y a des chips de points de victoire. Des chips, chips, chips.
Ok.
Mais évidemment, là, c'est la version un peu enfant pour s'initier. Mais
là, j'ai eu du mal. Alors.
Alors, attention, il y a en plus des grilles de ventilation parce que les amibes, elles sont un petit peu malignes et donc elles vont se cacher sous les grilles. Donc, dès qu'on sur le chemin, on rencontre une grille de ventilation, on ne compte pas toutes les cartes jusqu'à la grille suivante.
C'est ça.
Donc, tout ça, elle est cachée. Hop, elle ressort. Elle se recache à la suivante, etc.
D'accord.
D'accord. Comme il y en a trois, évidemment, on va finir par la trouver. On est d'accord ?
D'accord.
Et enfin, dernière chose, on a des chambres de mutation. Parce qu'évidemment, dans un laboratoire, il y a des accidents qui arrivent. Et donc, quand elles passent par des chambres de mutation, elles peuvent changer de forme, changer de motif ou changer de couleur.
D'accord. Donc, on est parti, par exemple, sur un orange-rouge et elle devient mauve.
Voilà, par exemple.
Violet-bleu.
Bleu.
Le mauve, on ne dit pas.
Moi je le dis, moi je le dis,
ouais,
moi je
dis. Tu m'offres toi.
Et donc le premier qui a 5 points de victoire gagne. Si on se trompe d'amibe, on doit rendre un point de victoire. Et puis voilà.
Simple.
Simple.
Ok.
Mais pas simpliste.
Donc, et cette fois-ci, Dominique Erhardt est aussi peintre dessinateur. Et c'est pas lui qui a dessiné les amibes.
Non, c'est pas sa spécialité parce que là on voulait quelque chose de très moderne, très graphique. Donc on a fait.
C'est ça, pas pour Dominique Erhardt.
Mais non. Mais non, lui il fait de l'art.
Oui, oui. Tout à
fait. Alors là c'est pas de l'art, là c'est du graphisme moderne, pur, et puis par ordinateur.
En plus.
D'accord. Et donc on a fait appel à un charmant garçon qui s'appelle Maxime Cyr et qui nous a fait un super travail.
Oui, hein. Bon.
Oui, hein.
Voilà, donc ça c'était Panic Labs de Dominique Erhardt. Et donc là on a fait trois jeux qui sont dans cette gamme boîte métal, familiale, sympathique, avec des nouvelles mécaniques. Agréable. Passons dans les choses un peu plus complexes, ou non, ou pas. Bah, donc, on y va avec Color Pop, avec une espèce de pupitre noir, avec plein de couleurs, et si j'ai pas d'explication, je ne comprendrai rien, donc allons-y.
Voilà, alors c'est un peu difficile d'expliquer sans voir, mais effectivement, donc on a un plateau incliné et dedans, on a des réglettes, des sortes de gouttières dans lesquelles on a inséré 100 exactement jetons de toutes les couleurs.
D'accord.
Donc ça nous fait un plateau. Donc le plateau est noir et il y a 100 rondes couleurs de toutes les couleurs qui sont devant nous. Ces jetons, ils sont déposés au hasard. Et on va commencer par... Alors, il y a aussi des jetons d'objectifs secrets. Voilà. Donc, ça commence par les joueurs prennent un objectif secret, regardent leur couleur secrète en dessous. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la partie, on ait le moins possible de cette couleur apparente sur le plateau de jeu. Parce qu'on va faire disparaître ces pions de couleur. Comment ça marche? On va simplement appuyer. Voilà, il y a un système de... Plop. Sur un groupe complet de couleurs, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais enlever un pion isolé, on va être obligé de supprimer des groupes de deux ou plus de jetons connectés ensemble de la même couleur.
Alors, ça ressemble très fort à ce genre de jeu vidéo où finalement on arrive à empiler un certain nombre d'alvéoles de la même couleur et là, à ce moment-là, ils disparaissent.
Voilà, il y a un peu de ça. Il y a aussi un peu des jeux solitaires sur Internet où quand on supprime des groupes de minimum 3 et on essaie de faire disparaître tout le plateau. Alors, l'avantage du coup, c'est que là, déjà, c'est un vrai jeu.
On n'a pas besoin d'Internet.
Il n'y a pas besoin d'Internet. On peut jouer de 1 à 5 joueurs. Et donc, quand on appuie sur un groupe, quand on fait disparaître un groupe, hop, il tombe. Et il y a les pions au-dessus qui viennent s'intégrer. Et donc, il faut essayer de réussir à regrouper ces jetons isolés pour pouvoir les faire disparaître et, si possible, éliminer complètement sa couleur.
D'accord. Et le jeu se termine à quel moment ?
Alors, le jeu se termine soit si moi, j'ai réussi, par exemple, à éliminer complètement ma couleur, j'ai gagné immédiatement. Si je n'ai pas réussi, on va compter, en fait, quand ça va s'arrêter tout seul. Et à un moment donné, il n'y aura plus que des jetons isolés, forcément.
Oui, d'accord.
D'accord ? Et donc là, on compte celui qui a le moins de sa couleur sur le plateau.
D'accord. Étonnant !
Le plateau, c'est vraiment une innovation.
C'est très spécial. Hein,
c'était très très compliqué à fabriquer.
J'imagine. Mais vous êtes des spécialistes, hein, puisqu'il y avait Cubulus et vous aviez déjà démarré avec. Enfin, Cabaleo, c'était pas très compliqué, mais Camisado, c'est déjà un peu plus compliqué à construire, non ?
Cabaleo.
Non, il y a Camisado aussi.
On ne construit pas Camisado.
Ok, j'ai rien dit. Mais avec Cubulus, par exemple, vous avez fait déjà des prouesses technologiques, donc maintenant vous avez l'habitude.
C'est-à-dire que Stéphane, qui s'occupe du développement des produits, de la fabrication, aime bien se donner des défis, et là, il en a eu un bien. Donc on sait pas ce qu'on va lui trouver pour l'année prochaine, mais on cherche.
Vous trouverez. D'où vient ce jeu, en fait ? Qui a fait ça ?
Il s'appelle Lionel. Attends. Il s'appelle Lionel Borg.
D'accord.
C'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on voit traîner sur Trick Track ou sur des salons en Cannes et tout ça. Et je pense que le premier contact qu'on a eu, c'était à Cannes. Et puis ça, il nous l'a envoyé par la suite. Et puis voilà.
Sans faire de parallèles qui n'en seront pas, c'est quand même la première fois qu'on voit quelque chose qui est en fait un jeu vidéo qui devient un jeu de société abstrait.
Alors, je ne sais pas si on est les premiers à avoir ça, mais en tout cas, nous, on a trouvé que c'était plutôt une bonne idée, en fait.
Disons que dans les allées ici, on voit quand même de plus en plus d'iPad avec des jeux intégrés, etc. Et là, c'est exactement l'inverse, donc je trouve ça très bon.
Oui, c'est vrai. Nous, on va à contre-courant.
Alors, Next.
Next. Alors, next.
Justement.
Oui, alors, next jeu, next. Mais je l'ai fait pendant une semaine.
Oui, j'imagine. Oui, non. On va faire comme si c'était la première fois.
Alors, next, c'est le frère de Wasabi.
Donc, le fameux Wasabi. Le fameux Wasabi où on essaye de se débarrasser de CD avec des cartes et en essayant d'ennuyer les autres. Alors, allons-y.
Alors, bon, là, c'est pas tout à fait pareil, mais on est dans
une boîte en forme de cube.
C'est une boîte cube.
Voilà.
Hic. Mm-hmm. Et il y a des dés et il y a des cartes.
C'est magnifique.
Voilà. Sauf que, alors, sur CD, on a des symboles. Donc on a une étoile jaune, un carré violet, une croix orange, enfin bref, voilà. En gros, on a essayé d'aider les daltoniens pour qu'ils puissent jouer, parce que s'il y avait eu que les couleurs, ils n'auraient pas pu jouer. On a une tour à dés. Et donc
des petits tiroirs dans lesquels on a des cartes ?
Ouais, voilà.
Allez,
des petits tiroirs où on met les cartes. Et donc on a trois tas de cartes qui sont les objectifs. Et pour le moment, on ne peut atteindre que les trois qui sont apparents en haut de la pile.
D'accord. Et donc, par exemple ?
Et donc, par exemple, ici, on a une carte qui vaut 2 points de victoire, mais il faut faire 3 étoiles. Mm-hmm. On en a une qui vaut 2 points de victoire. Allez, c'est peu cher payé, où il faut un symbole pratiquement de chaque. Un symbole de chaque.
Oui.
Et il y en a où il faut faire des combinaisons un peu à la poker. Donc, il y a des foules, des brelans, des choses comme ça. D'accord ? À son tour, on a 3 essais pour lancer les dés et essayer de faire une combinaison. On peut mettre des dés de côté. Voilà, ça, c'est assez classique. Les petits trucs en plus, c'est quoi ? Pourquoi on l'appelait Next ? Parce que si à la fin de mes 3 essais, j'ai pas réussi à faire une combinaison, le joueur suivant, il a le droit de garder tout ce qu'il veut de mon dernier tirage. Ce qui peut être extrêmement frustrant pour le joueur d'avant, évidemment. Et c'est assez drôle, mais par contre, il a plus que 2 essais.
Oui.
D'accord ? L'autre petite chose, c'est qu'il y a 2 dés qui sont noirs. Quand ces 2 dés montrent le même symbole quand ils sont lancés au même moment, ça vous donne le droit de changer la face de n'importe quel dé. C'est un joker. D'accord. Et évidemment, en plus, il y a des cartes un peu vilaines, du genre voler une carte de victoire à quelqu'un, échanger avec l'autre, échanger avec tout le monde, avoir un tour gratuit, etc.
D'accord. Donc on est bien dans cette gamme Wasabi, jeu d'apéritif à l'aise.
Voilà.
Et le jeu se termine à quel moment ?
Le jeu se termine, alors ça dépend du nombre de joueurs, mais en gros, alors ça aussi, il y a un petit truc rigolo. Par exemple, quand on joue à 2 joueurs, le jeu s'arrête quand un des joueurs a gagné 10 cartes. D'accord. Mais si quelqu'un qui a 7 cartes ou plus pense qu'il est le plus fort, il peut décider de dire la partie s'arrête à la fin de mon tour, et là on compte, et donc il ne faut pas s'être gouré.
Non, c'est mieux.
Ok, donc ça c'est Next, c'est un jeu qui est sur un concept de Gilles Drucman et Danny Herskovitz.
Oui, qui sont des auteurs israéliens.
Ah oui, d'accord. Que vous avez rencontré, ici par exemple
Je pense à Nuremberg l'an passé.
Ah oui, donc ça veut dire que ce jeu n'existe que chez vous, ou bien on va le retrouver chez un éditeur israélien ou...
on va... Non, le truc, nous, nos jeux sont exportés par nous-mêmes, donc dans 40 pays dans le monde. Donc c'est cette, la même boîte, on va la retrouver en Israël, chez notre partenaire, Foxmind, en l'occurrence.
Excellent.
Voilà.
Alors, suivant. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous fait... Ben, c'est le dernier. Et donc, on retombe, sans lui faire mal, je l'espère, sur Annie Clobé, avec un Stratopolis qui est nettement moins familial, en tout cas d'apparence.
Alors, oui, c'est sûr que c'est là, on est dans du jeu abstrait, pur, réflexion, 100%, il n'y a pas de hasard et tout quoi.
Oh.
Alors, ça se présente comment? On a devant nous 40 tuiles qui ont une forme de L, donc qui ont trois carrés connectés ensemble, de couleurs. Alors, il y a des rouges, il y a des verts et il y a des noirs.
Noir, ça veut dire pas de couleur du tout, en fait.
Ça veut dire neutre, en fait. On commence avec chacun... C'est un jeu pour deux joueurs. On va... Je l'ai déjà dit, en fait. Hein.
Non.
Non, non, bah, je le dis maintenant. Alors. On a chacun une pile à sa couleur.
Ah oui.
Donc, il y a la pile numérotée numéro 1 du joueur rouge et la pile numéro 2 du joueur vert. Mais il arrive que dans la pile du joueur rouge, on ait quelques carrés verts.
Ah oui.
D'accord.
Donc en fait, non, elles sont numérotées
1 ou 2.
Ah, 1 ou 2, ok, d'accord. Donc on sépare 1, 2 et on démarre la partie.
Exactement. Donc on a chacun sa pile de tuiles. Et il y a une dernière tuile, voilà, qu'on met au milieu, qui est la tuile de départ avec un carré rouge, un carré vert.
Ouais.
À son tour, on fait quoi? On prend la première tuile de sa pile et on la pose contre une tuile déjà en place. Alors on peut la poser n'importe comment, il n'y a pas de contrainte de couleur, on fait vraiment comme on veut.
D'accord. Donc là, tu les glisses sur la table, elles se touchent, mais il n'y a pas encore d'empilement, Valérie, puisque ça s'appelle Stratopolis, donc j'imagine qu'on va avoir des strates.
Alors voilà, c'est là où on va pouvoir maintenant monter. Donc soit on étend son territoire, soit on monte. Et alors pour monter, par contre, là, on a des contraintes. On ne peut pas mettre une tuile sur une tuile. Il faut absolument que ça touche au moins deux tuiles.
D'accord.
Et on ne pourra jamais mettre un rouge sur un vert, et un vert sur un rouge. Par contre, on peut utiliser les noirs pour soit cacher la couleur de l'adversaire et casser son territoire, soit agrandir le sien.
Comment est-ce qu'on va cacher en se mettant sur un noir?
Parce que moi, j'en ai des... Tu vois, j'ai des tuiles noires dans ma pile, donc je vais pouvoir, par exemple...
D'accord.
Tu vois, voilà,
donc on peut déposer des tuiles noires sur du vert, par exemple.
Voilà, tout le reste, il y a juste rouge et vert l'un sur l'autre, c'est pas possible. Okay. Tout le reste, on peut.
D'accord.
Ok. Donc voilà, par exemple, tu vois.
Ouais.
Alors, donc, grimper, ça sert à quoi? À la fin, ne va pas gagner forcément celui qui a le plus grand territoire. C'est celui qui a réussi à optimiser le mieux. Parce qu'on va compter sur une zone, on va compter les carrés d'une même couleur connectés ensemble par au moins un côté, et on va multiplier ce résultat à la hauteur de la plus haute pièce de cette surface.
D'accord.
Ça veut dire que si j'ai une pièce qui est à l'étage numéro 2, je vais multiplier ma surface par 2.
C'est ça.
Donc tout le truc, c'est il faut s'étendre, faut monter et il faut en même temps empêcher l'adversaire de faire ce qu'il veut.
Joli, simple, direct.
C'est un classique très élégant.
C'est déjà un classique.
Non, je dis classique, non, je voulais dire. C'est un jeu abstrait très élégant.
Tout à fait. Donc ça sera dans une boîte type Cabaléo, hein, donc cette boîte hexagonale.
C'est juste parce qu'on aime bien que les boutiques elles aient du mal à faire des paquets cadeaux.
Oui, c'est ça en fait, c'est bien sympathique. Que dire de plus, sinon bon voyage, puisque j'ai cru comprendre que votre hélicoptère vous attendait sur le toit du bâtiment.
J'y vais.
Ouais. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur boitcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.